On est au 87e jour de guerre et peut-être qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord. Il faut vérifier tout de suite en allant à Washington. Non. On retrouve Antoine Hollard en direct pour BFM TV. Antoine, est-ce qu'effectivement le président Trump va signer aujourd'hui ou demain, on est proche d'un accord plus que jamais ?
Écoutez, la Maison-Blanche dit qu'on est à 95% proche d'un accord, que quasiment tout est réglé, mais qu'il reste encore certains points à définir, notamment sur la formulation de certaines clauses de cet accord. Ce qu'on remarque ce matin, en tout cas, c'est que Donald Trump est particulièrement agacé par les critiques et les doutes qui se font entendre ici aux États-Unis autour de ce projet d'accord, en particulier les critiques de certains élus républicains, certains sénateurs pourtant proches de Donald Trump et qui considèrent eh bien, que Trump est sur le point de lâcher trop de lest, en particulier sur la question du nucléaire ou des avoirs gelés iraniens. Et ça, Trump ne supporte pas ces critiques. Il ne veut surtout pas donner l'impression qu'il est en position de faiblesse. Il ne veut surtout pas donner l'impression qu'il veut à tout prix signer un accord, même un mauvais accord, pour sortir du bourbier iranien. Et donc ce matin, eh bien, Trump tient à mettre les choses au point dans plusieurs messages sur son réseau social. Il explique eh bien, qu'il ne faut pas écouter ceux qui parlent sans connaître le détail des négociations. Il dit que ce sont des losers. Et il dit aussi que l'accord sera formidable ou alors qu'il n'y aura pas d'accord du tout. Et que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, ce sera le retour au champ de bataille avec des frappes qui seront encore plus violente, encore plus puissante que les précédentes. Donald Trump qui également dans son réseau social part dans un long dégagement autour des accords d'Abraham. Vous savez, c'est ce processus qui consiste à normaliser les relations entre Israël et les pays arabes. C'est un processus que Trump avait déjà enclenché lors de son premier mandat. Il dit aujourd'hui que tous les pays du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite, doivent rejoindre ces accords. Il dit même que l'Iran pourrait rejoindre ces accords. Alors pour le moment, ça reste de l'ordre du fantasme, mais en écrivant cela, Donald Trump, encore une fois, tient à montrer que c'est lui qui a les cartes en main et surtout qu'il est en train de préparer quelque chose d'historique qui va complètement transformer le Moyen-Orient. Réponse donc à ses critiques et à ses doutes qui se font entendre ici autour de ces négociations.
Merci Antoine Hollard, en direct de Washington pour BFM TV.
Didier, François, on voit bien qu'il y a deux récits toujours, le récit américain et le récit iranien qui s'opposent quant au contenu exact du texte final. Par exemple, moi j'ai des questions, le nucléaire, est-ce qu'il sera oui ou non remis à plus tard?
Alors, c'est ça, en fait, et c'est très logique que les deux récits s'opposent, puisque le but du jeu, c'est que chacun puisse dire qu'il a gagné. Vous avez bien compris que c'était ça l'idée, pour vous réussir à trouver un accord. Donc, le nucléaire, oui, ça sera plus tard, mais dans le cadre, ce qu'on négocie en ce moment, c'est pas le nucléaire, c'est pas encore la levée des sanctions, on négocie pas encore ça, on négocie le cadre. C'est bien compris. Donc, qui est que les Iraniens veulent pouvoir dire qu'ils gardent l'uranium enrichi et que ils ont le droit d'enrichir et que les Américains veulent pouvoir dire ils n'enrichissent plus et nous récupérons l'uranium enrichi à 60%. Donc, c'est là-dessus que la proposition qui avait été lancée la semaine dernière était maligne. C'est qu'en fait, les Américains suggèrent qu'ils récupèrent une partie seulement des 440 kilos enrichis à 60%, le reste étant dilué sur place, ce qui permet, puisqu'ils vont baisser le taux d'enrichissement, d'avoir en fait un enrichissement qui se fait sur place. Donc sur la question de l'enrichissement, pendant les 5 premières années, ça sera zéro en taux d'enrichissement. Ils n'en auront pas besoin puisqu'ils dilueront le 60%. Entre les 5 et 10 ans, un taux à 1,5. Et à partir de 15 ans, le droit permanent d'enrichir pour du nucléaire civil à 3,67%. Et donc, c'est ça qui est en train d'être discuté dans le protocole additionnel. Et vous comprenez bien que pour rentrer dans ces discussions-là, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord sur le cadre. Et ce que demandent en échange les Iraniens, c'est une levée progressive des sanctions sur l'argent qu'ils voudraient, eux. Ils avaient voulu tout lever. Après, ils ont demandé 25% de ce qu'ils avaient.
Ça représente combien?
On est sur une discussion en ce moment sur 10 milliards de dollars.
D'accord.
Voilà. Vous récupérer et c'est 10 ça qui sont les négociations en cours. Et la deuxième chose...
Et le détroit d'Ormuz?
Et le détroit d'Ormuz, c'est la levée simultanée du blocus iranien contre le blocage des ports par les Américains.
Pardon, mais M. Carcenti, vous qui défendez Donald Trump ici en France, c'est ça un bon accord? C'est-à-dire tout ça pour ça? Parce que le détroit d'Ormuz, avant la guerre, il posait pas de problème, il était ouvert à la navigation. Le nucléaire, visiblement, les Iraniens veulent en garder une partie. Le régime sera toujours là. D'ailleurs, il continue à réprimer sa population. Il y a eu une pendaison hier d'un jeune manifestant. Tout ça pour ça. Je comprends pourquoi Donald Trump commence à s'agacer des critiques.
moi aussi. Tous ceux qui parlent ne savent pas et tous ceux qui savent ne parlent pas, c'est tout. C'est simple. Vous savez, j'ai eu ma fille aujourd'hui à Washington au téléphone, qui est partie passer quelques semaines là-bas, et qui est vraiment au cœur du réacteur, et qui a parlé à certaines personnes intéressantes pour savoir. Et elle me dit, mais ce qui est impressionnant, c'est quand tu parles vraiment aux gens proches de l'administration, très proches de l'administration, on voit l'écart entre ce qu'on raconte dans les médias, parce qu'elle suit aussi les médias français, elle me dit, on voit l'écart. Donc moi, je n'y crois absolument pas, et j'entends ce que dit Didier, et j'ai beaucoup de respect.
Mais la croyance est une chose, après, il y a les faits.
Non, mais moi, je ne crois pas qu'on arrivera... Parce que, attends, je veux juste finir, Didier. Je ne crois pas, parce que si c'est ce que Didier vient de décrire, c'est Obama 2.0 en pire. C'est bien pire que tout. Et là, je vous dis très objectivement, vous ne me réinviterez pas, parce que là, je ne pourrais pas défendre ça. C'est indéfendable. L'accord qui est en train d'être décrit par les médias est indéfendable. C'est pour ça que je crois vraiment que ce qu'on entend aujourd'hui n'est pas la réalité.
Trump ne peut pas signer cet accord, vous dites.
Je n'y crois pas.
C'est lui qui l'a envoyé lundi dernier, qu'il a donné aux Pakistanais. Enfin, c'est pas lui, il a donné son accord. C'est Steve Witkoff et Jared Kushner, les deux négociateurs, qui ont donné cette proposition-là au ministre des Affaires de l'Intérieur pakistanaise.
Alors, voilà, c'est ce porté. C'est l'information que Didier a recueillie. Ouais. Moi, ce ne sont pas les informations que j'ai
transmises à l'ensemble des pays.
Je sens déjà très déçu.
Oui, leurs alliés.
Non, mais je vous dis.
C'est en tout cas ce qui a été donné par.
Oui, oui, mais
ce qui a été donné par les deux négociateurs à l'ensemble de leurs.
Non, ce qui a été donné par les
personnes. Vous voulez pas y croire. Vous voulez pas y croire.
Non, c'est pas que je ne veux pas y croire. C'est que ça ne correspond pas à moi ce que j'ai comme bruit. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que ce que vous avez, là, vous avez 100% raison, c'est que si on va à cet accord, c'est pire qu'Obama, c'est pire que tout. Et le bruit de fond à Washington, c'est. Il faudra finir le travail, c'est tout. Le travail doit être... On ne peut pas laisser ces gens-là continuer à martyriser, à terroriser la planète.
L'hypothèse de reprise des combats n'est pas écartée.
Ce que je dis chaque semaine depuis 47 jours, c'est-à-dire que la guerre s'est arrêtée il y a 47 jours, hein, on a 40 plus 47, et je pense qu'on est toujours sur un...
Général Christian Queneau, ça tourne à l'avantage des Iraniens ?
Le temps travaille pour eux. Et l'équation temps pour les Iraniens n'est pas l'équation temps pour Trump. C'est là la grande faiblesse de Trump, qui veut arriver à quelque chose. Alors, on peut discuter ce à quoi il veut arriver, mais dans un temps très court, à cause de problèmes intérieurs, à cause de l'inflation, à cause des élections du mid-term. Donc, lui, il va arriver à quelque chose en disant qu'il a gagné. Il va arriver à quelque chose. Les Iraniens, c'est un régime dictatorial des passes d'Aran, qui, eux, jouent simplement leur survie. Donc, eux, ils iront jusqu'au bout. Quelles que soient les propositions, quelles que soient les circonstances, ils iront jusqu'au bout. Et ils ont des capacités de rétorsion très importantes. Ils ont reconstitué leur stock de missiles.
On en est sûr.
Ils les ont reconstitués. Ils sont à peu près, d'après ce qu'on peut savoir, 70% de leur stock initial.
Ah bon ?
Et avec ça, ils ont 34 sites sur 37 qui sont opérationnels, qui sont en particulier sous les falaises dans le détroit d'Ormuz. Ils sont à des profondeurs extrêmement importantes. Et pour les détruire, il faut des tirs directs dans le tunnel, ce qui techniquement n'est pas impossible, mais demande d'envoyer des avions, etc., qui seront vulnérables à d'autres contre-attaques iraniennes.
Alors, cette image...
Oui, cette image des bateaux, des centaines de bateaux, des milliers de bateaux qui attendent toujours dans le détroit d'Ormuz, Clémence Dibouze, sachant que si c'est débloqué, le détroit d'Ormuz, enfin la navigation va pas reprendre comme ça en 24 heures.
C'est des bateaux qui sont proches d'ailleurs.
Ça sera week-end rouge. Hein.
Ça
sera week-end rouge dans les deux sens.
Ça sera un retour à la Pentecôte.
Bison futé doit se...
Et des retours. Il y aurait une trentaine de bateaux qui seraient passés aujourd'hui, selon les informations qu'on a sur place, alors plutôt des bateaux chinois. Sauf que le problème, c'est que même sur ça, les termes de l'accord ne sont pas forcément compris de la même façon des deux côtés, parce que les États-Unis parlent d'une ouverture pure et simple En revenant avant la guerre, je vous rappelle que l'Iran, elle parle de, elle le dit pas comme ça, hein, mais d'une sorte de péage ou en tout cas de faire payer des services.
Elle parle de frais de navigation.
De frais de navigation, comme on peut avoir par exemple dans le Bosphore, on peut avoir ce genre de situation, sauf que des deux côtés du Bosphore, bah, c'est le même pays, c'est la Turquie. Là, il faudrait se mettre d'accord avec Oman, ça avait été évoqué à un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais pour l'instant, il est question de faire un péage iranien, donc on reviendrait pas forcément à la normale et ce serait le commerce mondial et donc quasiment tous les pays du monde qui en pâtiraient.
On est avec Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour BFM TV. Est-ce que Siavosh, il y a vraiment une chance d'un accord à court terme alors, d'accord de paix?
Alors, selon les responsables iraniens et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, si les États-Unis prennent les décisions nécessaires, un accord est possible. Il y a plusieurs questions qui sont toujours en suspens. Tout d'abord, la fin des attaques israéliennes contre le Liban, la population chiite au Liban et le Hezbollah libanais. Également, la reconnaissance que c'est l'Iran qui contrôle désormais le Détroit d'Hormuz avec ces taxes qui seront perçues pour le passage maritime, pour selon Téhéran, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc pour assurer la sécurité des navires qui traversent le détroit et aussi pour assurer des questions d'environnement, donc protéger l'environnement dans ce détroit et ensuite percevoir une partie des biens iraniens qui sont bloqués à l'étranger à cause des sanctions américaines. Si les Américains font des gestes sur ces questions-là, il est possible d'avoir un accord assez rapidement d'ici demain matin, selon un conseiller du gouvernement iranien. Sinon, l'Iran estime qu'il a le temps, qu'il n'est pas pressé. Ce sont les Américains qui sont sous la pression, puisqu'un responsable iranien, un porte-parole de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien a affirmé que si les Américains devaient s'attendre à un gallon d'essence à $6, donc ce qui aura des conséquences encore plus importantes sur le plan politique intérieur américain, donc une manière de menacer les États-Unis les tensions continuent. Pour Téhéran, il n'est pas question de céder sur ces lignes rouges que l'Iran veut respecter et ne cédera pas sur ces lignes rouges.
Pendant que Siavosh faisait son direct de Téhéran, Didier François, on voit des images de propagande iranienne. Mm-hmm. Alors, on va les laisser, ces images. Elles ont été publiées le 25 mai. Alors, oui. Elles ont été publiées. C'est compliqué de dire où est-ce que c'est, de quand elles datent, etc. Mais ce sont ces missiles, d'après ce que disait le général, ils les ont toujours alors, les Iraniens? Alors,
ils ont une partie des missiles, les évaluations.
Je croyais que tout avait été détruit, qu'il ne restait plus rien.
Tout a été reconstitué, enfin une partie.
Non. Sur les missiles, il n'y a pas vraiment...
Effectivement, comme dit Olivier, c'est tout ça pour ça, quoi.
Alors, ce qui a été reconstitué, et ce qui n'a d'ailleurs pratiquement pas été détruit, c'est les drones. Parce que, pour une raison simple, c'est que les lieux de fabrication de drones, c'est beaucoup plus petit, c'est pas très gros, et c'est très éparpillé sur le territoire, et ça demande pas d'énormes ça demande pas les mêmes techniques que les techniques des missiles balistiques. Les missiles balistiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déblayé un certain nombre de sites qui avaient été frappés à plusieurs reprises et qui étaient encore fonctionnels, et qui, comme ils étaient enterrés, avaient gardé des stocks. Les évaluations qui ont été faites par les services occidentaux au moment du cessez-le-feu, qui sont extrêmement prudentes, parce qu'on sait ce qu'il y avait comme stock avant, on sait ce qui a été tiré, on sait assez peu ce qui a été détruit.
D'accord.
En fait. Et donc, les estimations étaient que les capacités iraniennes de tirer le nombre de missiles qui tiraient avant le cessez-le-feu, c'est-à-dire à peu près 30 par jour, étaient encore de l'ordre de 2 mois, et ce qui permettait effectivement de faire une campagne de contre-frappe si une deuxième vague était envoyée sur les pays de la région. C'est-à-dire que si les Américains commençaient une seconde frappe, entre autres sur les centrales électriques, etc., les Iraniens avaient une vraie capacité à tirer de manière assez massive sur les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite pour détruire, entre autres, par exemple, leur capacité de prospection gazière, de pétrolière et les usines de désalination. C'est ça la crainte. Et c'est pour ça que les pays arabes demandaient à Trump de ne pas refaire une deuxième passe sans pouvoir leur apporter la garantie que le régime s'effondre.
Général. Les Russes ont envoyé des missiles à l'Iran à travers la mer Caspienne. récemment. Et donc, qui a
sûr ou pas sûr.
Tout le monde n'est pas d'accord là sur le plateau.
Il y a une frappe israélienne qui a été faite sur un des ports de la mer Caspienne où il y avait des suspensions de livraison de nouveaux drones Guéran 2 avec des systèmes de. C'était pas des missiles a priori.
Bon, je voudrais juste revenir sur le bluff.
Allez-y, finissez votre propos général du coup.
Non, non, moi, c'est pas. Enfin,
a priori, hein,
c'est pas mon sentiment et c'est pas le. Disons les informations que j'ai.
Voilà. D'accord. Comme quoi, il y aurait quand même eu fourniture de missiles.
Fourniture de missiles. Ils étaient très demandeurs de missiles parce que, comme vous disiez, avec juste raison, les drones, ils savent faire. On en fait partout, etc. Ça coûte pas cher. Mais les missiles, c'est quand même la taille au-dessus.
Absolument.
Mais puisqu'on est dans l'armement, nous sommes avec, il est avec nous, Anis Ayari. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est votre première sur ce plateau.
Exactement.
Vous êtes
bienvenue.
Ingénieur en
acquis. La clim marche en tout cas.
Ingénieur en intelligence artificielle, vous venez de sortir un livre sur le super pouvoir de l'IA. Et votre particularité, c'est que vous suivez la guerre en temps réel grâce aux images satellites sur vos ordinateurs, en fait. Et vous voyez, et en même temps, vous regardez comment l'intelligence artificielle aujourd'hui est très prégnante dans cette guerre, en fait.
Exactement. En fait, moi, récemment, j'ai fait un projet que j'ai diffusé sur ma chaîne YouTube où j'ai expliqué comment, avec des données satellites ouvertes, avec des données totalement libre d'accès et un petit modèle d'intelligence artificielle que j'ai entraîné, je peux analyser des millions d'images en quelques heures pour pouvoir détecter des Charles de Gaulle, pour pouvoir détecter des flottilles, etc. Ce que j'ai fait, c'est pas une super chose technologique. En fait, le but, c'était de montrer que la position d'un porte-avions en 2026, elle est plus secrète.
Donc, vous savez précisément où est le Charles de Gaulle, là?
Actuellement, non. Parce que ça dépend de la couverture satellite des données Sentinel. Mais en fait, des États, des entreprises privées, ont la capacité de suivre en temps réel des navires militaires, ont la capacité de suivre en temps réel des bâtiments militaires, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une guerre d'intelligence et d'information en temps réel. Et je pense que c'est important, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo YouTube, de montrer que moi, à ma petite échelle, si j'arrive à faire ça, j'ai réussi à identifier une quinzaine de positions du Charles de Gaulle en Méditerranée orientale et aussi le long du canal de Suez, etc. En fait, évidemment que des entreprises et des États peuvent le faire. Là, par exemple, tout à l'heure, vous vous disputiez sur est-ce que on a livré des missiles, oui, non, etc., etc. C'est bien la preuve que ce qui compte aujourd'hui dans les guerres en 2026, et je ne sais pas si on se rend compte, mais on est en train de vivre la première guerre où l'intelligence artificielle joue un rôle absolument crucial. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on en ait conscience, parce que c'est des enjeux de souveraineté qui sont en train de se jouer devant nous. Quand des systèmes automatisés sont capables de lister des cibles en temps réel, plus rapidement que des humains, et avec malheureusement des biais aussi plus forts que des humains, ben en fait, ça pose ça nous pose une vraie question par rapport à l'utilisation qu'on a de ces technologies.
C'est super intéressant. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça rebat donc les cartes des puissances de guerre? On peut imaginer la force de frappe des États-Unis. L'Iran peut s'emparer de l'IA. L'Ukraine, par exemple, face à la Russie, peut s'emparer de l'IA. Est-ce que pour vous, ça rebat les cartes des grandes puissances comme on les entend au niveau des armées?
En fait, l'intelligence artificielle, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, en fait, elle rebat les cartes d'énormément de choses. On se rend pas compte. On pense que ça rebat les cartes de ChatGPT dans l'industrie qui est capable d'automatiser des mails, etc. Aujourd'hui, des modèles d'intelligence artificielle comme Claude ou OpenAI, vous pouvez littéralement juste leur demander quelles sont les meilleures cibles à cibler avec 100 missiles à taper à Téhéran. Ils vont automatiquement faire la liste des cibles
prioritaires. On est sûr de cette liste ?
Et justement, on n'est pas sûr de cette liste et c'est toute la magie des systèmes non autonomes, mais on dit que l'humain décide de quelle cible finalement il va taper et qu'il a le dernier maillon de la chaîne de décision. Or, souvent, ces humains ont quelques secondes pour dire oui, non, et ils doivent trier parfois des milliers de cibles décidées automatiquement.
C'est le principe de la banque de cibles qui est en train d'être constituée pendant ces 47 jours de cessez-le-feu, qui a permis donc aux Américains et aux Israéliens d'analyser le territoire iranien de façon beaucoup plus détaillée qu'elle n'aurait été faite avant l'IA. Et donc, en fait, quand on nous dit le territoire iranien, c'est trois fois la France, avec l'IA, avec les moyens qui sont mis en place, le territoire est bien réduit.
Nous allons à Hormuz retrouver, enfin à Doha, au Qatar, pour parler d'Hormuz avec Lola Baye en direct pour BFM TV, parce que c'est bel et bien l'enjeu et l'Iran veut garder, Lola, la main mise sur le détroit d'Hormuz.
Effectivement, Téhéran avance sur une ligne de crête. C'est la forme qui change, mais pas vraiment le fond. Vous l'avez entendu ce matin, le porte-parole de la diplomatie iranienne l'assure, il n'y aura aucun péage dans le détroit d'Ormuz. Mais, et c'est là où ça se complique, où Téhéran joue sur les mots, en quelque sorte, l'Iran exige des frais de service, de navigation, de sécurisation maritime ou encore de protection de l'environnement. Un mécanisme en pourparler avec Oman, finalement, c'est une manière pour Téhéran de garder son emprise sur le détroit d'Ormuz, détroit stratégique où avant la guerre transitait 20% du pétrole mondial. Reste une question en suspens, c'est celle du droit international qui interdit formellement de faire payer les passages dans un tel détroit. En tout cas, aujourd'hui, les gardiens de la révolution gardent la main et ils ont annoncé avoir laissé passer 32 navires au cours des dernières 24 heures, un chiffre en légère augmentation depuis le début du conflit.
Voilà, Lola Bail avec Hugo Dorsemen en direct de Doha au Qatar sur le détroit d'Ormuz.
Ces frais de navigation quand même, ils sont malins, Didier François, les Iraniens. On est passé du...
Ils sont roublards.
Oui, ils sont roublards. On est passé du péage aux frais de navigation. C'est à peu près la même chose, c'est mais ça, peut-être que ça sera acceptable quand et que Al-Qaïda... Donald Trump sera obligé d'accepter.
Non, mais quand Al-Qaïda égorgeait les gens, il pourrait dire que c'était de l'abattage rituel aussi pendant à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
Et il parle de pollution en plus.
Comment?
Il parle de pollution.
Oui, c'est ça, de pollution. Donc en fait, c'est du racket, c'est de l'extorsion. De fond, il est vraiment temps qu'on arrête de se traiter avec ces gens-là.
D'accord, mais peut-être que ce sera dans le deal.
C'est Donald Trump qui traite avec eux pour l'instant, c'est pas nous.
Oui.
Oui, moi je parle pas de Donald. Je parlais de.
Non, mais ça pourrait être dans le deal.
Mais le.
Non,
mais
dans un premier temps,
c'est évidemment que la question du détroit d'Ormuz va être dans le lead et c'est une inquiétude. Parce que vous comprenez bien que les pays d'Asie, les pays d'Afrique, les pays du Golfe, les Européens, sont évidemment très impactés si se met en place un péage.
Ça veut dire que toutes les marchandises que nous achetons seront plus chères.
Les Américains, beaucoup moins. Et Israël aussi moins. Donc effectivement, c'est ceux qui négocient côté occidental avec les Iraniens aujourd'hui sur cette question-là ont un peu plus de marge que nous n'en avons. Et c'est effectivement un motif d'interrogation.
Sofiane Aklouf n'est pas d'accord.
Non, mais il y a le point de vue moral, évidemment, qui peut choquer. Est-ce qu'on doit laisser l'Iran nous mettre un péage ou un droit de passage? Économiquement, ça ne va pas faire alourdir beaucoup la facture.
Pourquoi?
La dernière fois, on parlait quand même de l'équivalent $1 le baril. Quand vous êtes à $100 le baril de pétrole, que vous soyez à 100 ou 101, finalement, c'est pas ça qui va révolutionner le prix.
On espère que ça va baisser quand même le baril.
On espère que ça va baisser, mais ce que je veux dire, c'est pas à $1 près que ça va jouer. Ça paraît être des quantités énormes parce que il y a des cargaisons énormes sur les bateaux, mais sauf que quand vous redivisez ça par le nombre de barils, c'est pas incroyable.
C'est beaucoup plus grave. Il faut juste remettre les choses en place. On parle pas d'un dollar par baril ou quoi que ce soit. On parle d'une extorsion de fonds d'un régime terroriste.
Oui, vous parlez de l'argent. Moi, je vous parle
de l'économie. Non, mais je parle pas de ça. Non, moi, je vous dis que cet argent. Je dis que cet argent va servir à continuer à alimenter le terrorisme international, les groupes terroristes Hamas, Hezbollah, Houthi, etc. Donc, en fait, psychologiquement, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas vivre dans ce monde-là. Ce monde-là n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Didier, les infos que Didier a, moi, je pense que
celles qui ont été transmises par les Américains.
Non, non, elles ont été transmises selon le New York Times.
Non, excuse-moi, t'es gentil, mais non.
Mais moi, je suis gentil.
Non, mais
moi, je suis informé aussi.
Oui, non, mais là, c'est pas le New York Times. Je mes infos, elles viennent pas du New York Times.
D'accord,
donc, mais je lis. Donc, les infos, c'est ce qui a été transmis aux Américains à leurs partenaires. Voilà. Donc c'est pas
moi,
tout à fait la même chose.
Moi, c'est pas les infos que j'ai, mais
donc
moi j'entends ce que tu dis, mais
je pas ma fille là-bas qui m'envoie des trucs et je l'ai pas New York.
On parlait du pétrole, etc. On en est à combien là, le baril du Brent?
On est passé à $98 le baril de Brent. Ça faisait un mois qu'on n'était pas descendu sous les 100
dollars. Et à la pompe, ça va descendre un peu ou pas alors?
Non. Une mauvaise nouvelle, c'est que en tout cas, on peut pas le garantir. Pourquoi? Parce que, alors certes, on était à $110 la semaine dernière, mais bon, $100, ça reste quand même beaucoup plus. Avant la guerre, on était à $70. Oui. Donc, vous voyez que la détente, elle est toute relative. Et puis, le problème, c'est que, il va falloir prouver que cet accord est sur la table et il suffit pas de dire, alors oui, il y a un peu de détente sur les marchés, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, c'est comme en amour, tant qu'il n'y a pas de preuve d'amour, il se passera rien.
Oui.
Et ça va prendre des jours, potentiellement. Il faut que ça continue de baisser. Et puis surtout, il y a un autre problème, c'est que nous, les consommateurs, c'est tout ce qu'on en est, on va donc attendre que sur les prix des totems baissent. Et donc, notre comportement, c'est d'attendre. Et donc, les cuves des stations vont mettre plus de temps à baisser. Et donc, il va falloir attendre des jours et des jours. Alors que quand les prix montent, on va tous en station faire le plein avant que ça ne monte trop.
Pour ce week-end de la Pentecôte, Total avait prolongé son dispositif de plafonnement de ses prix. Quid des jours qui viennent ?
Alors pour l'instant, donc on est à 2,09 sur le diesel au lieu de 2,25. On repasse à 2,25 à partir de ce soir, à partir de minuit. Et pour l'instant, Total Energy ne communique pas sur un prolongement de cette opération
donc
exceptionnelle.
Donc plus d'avantage Total.
Bah pour l'instant c'est pas le cas. Alors qu'on sait qu'habituellement après chaque opération spéciale, il y avait une communication dans l'après-midi pour dire ah bah finalement il y aura une nouvelle opération. Là la question c'est plutôt sur cet été. Est-ce qu'il faut aider les automobilistes à partir en vacances ? Est-ce qu'il faut aider les Français en continuant ces opérations spéciales ? Tout va dépendre en réalité effectivement du prix du baril. S'il continue de baisser, voilà. Ce sera peut-être pas nécessaire. Si il repasse les 100 dollars.
Et combien de temps ? Parce que là, bon, 97, effectivement, c'est en dessous de la barre des 100, parce que, effectivement, ce week-end, on parle de négociations, de paix, mais ça peut repartir la hausse. Mais si ça baisse durablement, si ça passe à 80 dans quelques jours, il faut combien de temps pour qu'il y ait une répercussion concrète à la pompe ?
Déjà, 80 dollars, on sera content, parce que finalement, il faut être optimiste, c'est sûr. Mais la question, c'est que, effectivement, le détroit va rouvrir. Il n'empêche qu'il faut que tous ces navires passent, qu'il faut.
Et combien de temps ?
Alors, ça peut prendre des semaines, voire des mois, parce qu'on parle aussi des infrastructures qui ont été détruites dans les pays du Golfe. Et là, eh bien, on parle de mois.
Infrastructures pétrolières, gazières.
Exactement. Là, on est plutôt sur 2027. On n'est plus sur la fin de l'année 2026. Donc, pour retrouver des prix à 1,70€ le litre.
Donc ça restera sous tension et haut. Et ce qui arrange aussi les pétroliers, quoi.
Ce qui arrange les pétroliers, c'est certain. Et puis surtout, quand vous allez libérer des stocks, eh bien, les pays exportateurs vont sans doute, faire un peu gonfler, se refaire la cerise, entre guillemets, et donc faire augmenter les prix. Donc en fait, la détente, elle n'est pas pour tout de suite. Si détente il y a, et il y aura, si on reste à 90 dollars, 85 dollars le baril, on peut espérer, deux semaines après, 15-20 centimes à la pompe.
On a évoqué le front Iran-États-Unis, mais il y a un autre front. C'est le front israélien-libanais. Et là, on va retrouver Alexis Pluyette en direct pour BFM TV. Il est à Tel Aviv. Justement, est-ce que les Israéliens craignent un éventuel accord ?
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que Benjamin Netanyahou essaye de mettre la pression. En tout cas, il essaye de montrer qu'il peut mettre la pression sur Trump. Vous savez, il y avait ce post sur X hier où il dit l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, avec cette image martiale à côté de Donald Trump, générée par l'intelligence artificielle. Il y a eu ce coup de fil aussi ce week-end entre les deux hommes où Netanyahou dit c'est convenu avec Trump, un accord final avec l'Iran éliminera la menace nucléaire. Trump, il a essayé de rassurer, il a dit qu'il aurait une position ferme sur le démantèlement du nucléaire, mais en fait la réalité, c'est que déjà, visiblement, la question du nucléaire, ça va pas être dans la première phase de discussion, ce sera dans un deuxième temps, si on en croit des officiels iraniens à Reuters. Et puis l'autre réalité, c'est que Benjamin Netanyahou, il est pas vraiment en mesure d'influencer Trump, il l'aurait même admis à des proches, selon Reuters, comme un aveu de sa mise à l'écart, bien loin de cette image martiale sur X. Donc du coup, le résultat, c'est que les Israéliens, ils sont inquiets. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un mauvais accord si l'Iran peut continuer à développer son programme nucléaire. Et ils disent, ils sont inquiets parce que évidemment, c'est l'avenir de la sécurité d'Israël qui est en jeu.
Voilà, Alexis Pluyette avec Clément Grosdenis en direct de Tel Aviv.
Général Cano, un accord sans nucléaire, très mauvais accord pour Israël, évidemment.
Ah absolument, parce que Israël joue sa survie. L'Iran a toujours dit qu'il voulait détruire Israël, donc
c'est sa constitution.
C'est pas comme les rapports avec les États-Unis. L'Iran n'a jamais dit qu'il détruirait les États-Unis. D'ailleurs, ils sont incapables de le faire. Mais là, c'est un vrai danger existentiel pour Israël. À cela s'ajoute le Hezbollah, qui est totalement entre les mains de l'Iran. Je cite un exemple. Le général Aoun avait viré l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth. Et il n'est pas parti.
Non, il est resté.
Il est resté. Et c'est lui qui donne les ordres au Hezbollah. Et le Hezbollah est quelque chose multiforme. Il a des armes, mais c'est aussi un système très imbriqué dans la population chiite, à la fois comme banquier, pour les hôpitaux, pour les prêts, pour tout, et jamais Israël n'arrivera à éradiquer,
à défaire cela,
à éradiquer le Hezbollah de.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un accord? Et puis que Benjamin Netanyahu dise, écoutez, vous, vous avez signé avec l'Iran, mais moi, désolé, hein. Moi, je continue de finir le travail au Liban, quoi.
Il y a une chose importante, excusez-moi, juste pour dire une chose importante. Aujourd'hui, à Washington, il est pris en compte le fait que Benjamin Netanyahu ne sera plus le Premier ministre dans quelques mois. Donc, en fait, il ne faut pas penser Netanyahu-Trump. Il faut penser Israël-Trump, Jérusalem-Washington. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est qu'en fait, la relation, elle est sur la durée. Et donc, se focaliser sur Netanyahu, je pense que c'est une erreur. Il faut comprendre qu'en Israël, il y a un consensus général qu'on ne peut pas laisser le Hezbollah continuer à bombarder le nord d'Israël et on ne peut pas laisser l'Iran se préparer au nucléaire.
Il faut être quand même clair. Ce qui se passe au Liban ne rentre pas dans l'accord qui est en ce moment en discussion entre les États-Unis et l'Iran. C'est deux choses. C'est un autre front d'ailleurs. Oui. Les Américains n'attaquent pas le Hezbollah du sud-Liban.
Qu'on peut retenir d'aujourd'hui. Marco Rubio qui rajoute à la fin de sa déclaration ce matin en disant oui, il y a peut-être un accord, mais Israël a le droit de se défendre. Voilà. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien qui a dit aujourd'hui qu'on ne décorrélerait pas cette question du nucléaire ou cet accord
du côté des Iraniens,
du côté des Iraniens et de la question du Liban et du Hezbollah. Donc les deux questions sont liées. Ce qu'il faut comprendre quand Marco Rubio dit qu'Israël a le droit de se défendre, que ce soit Benjamin Netanyahu ou un autre Premier ministre, parce qu'effectivement ça fait consensus dans la société israélienne, c'est que éventuellement, s'il y a besoin sporadiquement ou pour le Hezbollah surtout de se défendre, allez-y. Pour l'Iran, c'est plus compliqué d'y aller sans les États-Unis pour Israël, mais ça veut dire que
Soit le nouveau Premier ministre israélien, celui-ci, s'il décide quand même que pour la sécurité d'Israël, il faut taper sur le Hezbollah, ça fait pas beaucoup de débat.
Justement, on va retrouver Élise Phillips qui est à Beyrouth pour BFM TV. Justement, Élise, et ça, le Hezbollah ne cesse de le dire, de le répéter via des communiqués. Hors de question de déposer les armes, de rendre les armes.
Exactement, et ça c'est vraiment pas une surprise hein, parce que depuis le début, le Hezbollah refuse toute négociation directe avec Israël et hier, effectivement, il y a eu cette déclaration de la part du chef de la milice, Naïm Kassem, qui a dit clairement les mots. Pour lui, il est hors de question que le Hezbollah rende les armes et les attaques de drones, notamment, vont se poursuivre contre des positions militaires israéliennes dans le sud du Liban. Ça risque de poser problème pour la fin de la guerre parce que le voisin du sud, Israël, exige comme condition sine qua non le désarmement total du Hezbollah, sinon les frappes vont se poursuivre. C'est le cas encore aujourd'hui, on l'a constaté avec Théo Touché, la ville de Tyr, notamment un petit peu plus au sud de là où on est, a été pilonnée par l'armée israélienne. Il faut avoir en tête aussi que toutes ces frappes de la part de l'armée israélienne tous les jours, dans le sud du Liban notamment, elles nourrissent aussi un sentiment, sinon de vengeance, mais au moins de colère dans la population libanaise. Un exemple précis avec Théo Touché qui m'accompagne, nous avons passé la journée ici à Saïda dans l'hôpital gouvernemental, avec des blessés de guerre, des gens qui ont été pris au piège des bombardements, qui s'en sont sortis, mais qui vont avoir des séquelles parfois à vie. On a rencontré deux hommes qui ont été très gravement blessés, dans le dos, au visage, au bras. Et quand on leur pose la question de savoir ce qu'ils envisagent pour le futur, l'avenir de leur pays, eh bien forcément, ils nous disent ne pas croire et ne pas vouloir un accord de paix avec Israël. Il faut donc avoir aussi en tête ce sentiment-là qui grandit parmi la population libanaise quand ils constatent ces frappes qui continuent de se multiplié un petit peu partout sur le territoire.
Philippe, c'est avec Théo Touché à Beyrouth pour BFF. Pourtant, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions à Washington. Je ne sais pas si elles sont toujours en cours, si elles sont rompues entre Israéliens et Libanais.
Les discussions entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien à Washington via les ambassadeurs des deux pays sont en cours. Sur le Liban, dans ce qui a été proposé par les Américains aux Iraniens, honnêtement, j'en sais rien. Parce que dans le texte qui a été envoyé, il n'y avait rien sur le Liban. En tout cas, dans ce que j'ai vu, il n'y avait rien sur le Liban. Je ne sais pas quelle est la position qui a été envoyée dans les négociations américano-iraniennes sur la question libanaise. Effectivement, il y a des déclarations publiques des deux côtés qui laissent penser que les Américains veulent poursuivre les négociations sur le processus de paix entre le Liban et Israël d'un côté, et les Iraniens qui voudraient inclure la question cessez-le-feu libanais dans le cadre de l'accord général. Mais honnêtement, j'ai rien vu d'écrit là-dessus, j'en sais rien.
Un dernier mot, Philippe Garcetti.
Oui, moi ce que je comprends, parce que j'ai parlé aussi à des partis chrétiens libanais, c'est que la colère aujourd'hui, elle est plus vers le Hezbollah qui a relancé la guerre quand il y a eu le redémarrage de la guerre avec l'Iran, et qu'aujourd'hui, et quand il y a eu un sondage qui a été fait au Liban, seuls les partisans chiites du Hezbollah se sont opposés au traité de paix qui est en train de se préparer entre Liban et Israël.